L'expérience commence. Il y a un avant et un après. C'était le 20 décembre 2016. Sigrid Carré-Lecoindre et ses partenaires de jeu sont en tournée en Vendée. Sur une voie rapide, un matin, il y a un choc. 50 véhicules s'emboîtent dans un immense carambolage. Il y a eu trou noir, des pensées. Où sont les autres? Qui était à l'arrière? Sigrid Carré-Lecoindre a perdu une partie de la mémoire sonore du carambolage. Elle part en quête des brouillards de chacun pour éclaircir petit à petit un souvenir commun. Et alors, le silence se met à parler.
Carambolage. Sigrid Carré-Lecoindre et Assia Khalid.
Mais à 20h30, quand on vient se placer, c'est... Il y a déjà des gens, je pense. Il y aura déjà des gens
du public, mais tranquillement. On essaie de garder l'effet de surprise jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut que chacun soit en place.
Oui, c'est ça, il faut que tout le monde...
Alors, le défilé, bon, j'aurais pu vous emmener direct là. En fait, la mairie, vous avez vu?
Oui.
Donc, l'autre coin qui me semblait peut-être un petit peu tendu pour le Kraken, c'était cette route qu'on va prendre.
La montée...
C'est exactement dans le sens là, hein, que vous prendrez la route.
Ah, la bonne montée.
Là. Hop là.
Ah d'accord.
Non non pas
ah,
la loi. Non non
oui.
Non non non.
Ah oui non ça c'est non. Parfait.
La petite.
Non, non,
ah
il y a des freins.
D'accord.
La descente il y a pas de souci. La montée c'est mes jambes qui ont du mal. Mais non non là il y a la descente on y va tranquille mais il y a un frein au pied. Pas de problème.
Alors voilà donc traditionnellement parce que la première année on n'a pas de vrais chars décorés c'est vraiment gros papier thématique on arrête d'utiliser de l'essence tout ça.
Oui. Très bien.
Traditionnellement, on passe les chars passés par là.
Oui.
Donc ça, c'est une option. Ça permet de ressortir de la zone de fête.
Mm-hmm. Et en général, ce point-là, on l'atteint à peu près au bout de combien de temps? Ça, c'est une heure et demie ou c'est plutôt
non,
une heure?
Non, moi, je dirais une heure.
Oui, donc ça, effectivement, ça nous éviterait de changer les batteries et tout ça. Ça correspondrait plus au temps qu'on met d'habitude.
Décembre 2016. Je quitte Brest et une résidence d'écriture pour Lorient, où je passerai la nuit avant de rejoindre la Vendée et l'équipe du Kraken Orchestra pour notre tournée d'hiver. Quelques jours auparavant, j'ai laissé derrière moi l'appartement que j'habite à Ivry. Juste avant de partir, sur un coup de tête, je suis allée chercher un sapin. Je pars pour une dizaine de jours. Je laisse un mot, une note. Un lapin en chocolat. Dans l'entrée, mes affaires sont déjà prêtes. Dernier regard sur la poignée, la valise, le chat, le sapin. En fermant la porte, mon cœur se serre. Je suis partagée, entre l'excitation et l'inquiétude du départ. Au fond du ventre, quelque chose me tient. L'envie profonde de rester chez moi, au calme ou à l'abri. Mais de quoi ?
Le Kraken Orchestra, fanfare maquillés, costumés, fantasmagoriques, funky, clownesques. Voilà, clownesques.
C'est une fanfare déambulatoire sur une grosse machine qu'on peut conduire en pédalant, avec un volant, voilà, donc qui peut avancer dans les rues.
C'est une drôle de machine construite sur un châssis de 4L.
La première fois que je l'ai vue, je me suis dit c'est une sorte de machine à voyager dans le temps. Ouais. Tu vois, avec plein de rouages, avec plein de petits détails, de la ferraille qui part dans tous les sens, des petites trouvailles mécaniques. Du coup, tu te dis, ah, je vais monter dessus et en fait, je vais complètement partir dans une autre époque et dans un autre monde.
C'est notre navire, c'est un monstre marin mythologique. C'est un kraken.
Ça ressemble à quoi ?
À un gros poulpe, à une très grosse pieuvre, capable d'engloutir des bateaux entiers en une seconde. Tout le monde en a peur, en fait, dans la mythologie. C'est la crainte absolue des marins. Mais nous, on l'a dressé. C'est notre maison, c'est notre bateau. On l'aime très fort. Il est très personnifié.
Et on est un équipage de 5 comédiens, musiciens, peintures lurées de bleu, avec des costumes... un peu décousu, de plus en plus décousu d'ailleurs. Et on a une sorte de pouvoir un peu étrange. On parle un langage étrange fait de hack et de niac et de spac et de mac et de cap.
Et nous, on est des pirates. On attaque les gens pour prendre la musique qu'ils ont dans leur tête.
On a un casque qu'on pose sur la tête des gens, qu'on va chercher un peu dans le public et on joue la musique qu'ils ont dans la tête.
Et ça nous rend hyper contents. Après, du coup, on repart et on en prend d'autres. Quand on est vraiment hyper content, on s'en va à jamais. On a une vraie puissance. Quand il n'y a qu'à nous entendre attaquer pour s'en rendre compte.
Est-ce que vous attaquez comment?
Mais on a souvent du mal à comprendre que c'est le moment d'attaquer. Mais quand on a chopé l'ordre... Là, on se regarde tous. Parfois, le temps se dilate, se ralentit. On lit la stupeur mêlée de frénésie dans le regard de l'autre et on en hurle tous ensemble.
Alors, ce que raconte le Kraken, c'est... L'envie d'avoir un choc des civilisations, l'envie d'aller vers les autres, en fait. Donc c'est simplement un peuple qui vient, les Kraken, c'est une espèce de peuple qui vient de on ne sait où, légendaire, donc on peut imaginer de l'Atlantide, mais ça peut être complètement d'ailleurs, qui n'a pas les codes de notre société, qui traverse les âges à bord de leur vaisseau, et qui ont envie vraiment de rencontrer, alors à leur façon, avec leur code, donc de façon peut-être un peu agressive, ou en tout cas un petit peu animale, mais qui ont envie d'aller à la rencontre des autres. Donc aller voir, comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres qui ne connaissent pas, et notamment la musique qu'ils ont dans la tête.
Avkufa, Lingbakr, Kraken, Kjork, Krabbe. L'animal est un trou où s'originent les peurs, engouffrent les fantasmes, où de tout temps tapissent les imaginaires, tremblent nos inconsciences collectives. À toutes les cavernes végètent des créatures insoupçonnées que l'on charge des désordres du monde, qu'on accable ou accuse, et puis qu'on laisse, là, redevenir îlots, rochers, écueils, mais écueils fuyants, indéterminables, insaisissables. Ainsi en est-il du Kraken, du Lingbark, de l'Avkufa ou de l'Architeotis Dux. Les légendes anciennes parlent d'un seul spécimen, pacifique, caché dans les profondeurs abyssales des mers du Nord, entre l'Islande et le Groenland, à quelques coudées du débord des eaux, un géant placide ou narcoleptique, dépassé par sa taille, désolé de ces tourbillons qui frondent la surface lorsqu'ils s'abîment, engloutissant tout. De vortex en sillon, sa masse frôle les milliers de tonnes.
Allô, ingénieur. Quelle pression ?
3,5, commandant.
Faites monter à 5. Nous partons dans un quart d'heure.
Le commandant Farragut.
C'est moi, monsieur.
Bonjour, commandant. Je suis le professeur Pierre Aronnax du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le gouvernement des États-Unis m'a invité à suivre votre chasse aux monstres à bord de l'Abraham Lincoln.
Je vous attendais, monsieur Aronnax. Soyez le bienvenu. Votre cabine est prête.
Décembre 2016. Petit matin. J'attends mon train. La gare de Lorient est presque vide. Seules quelques silhouettes ensommeillées traînent d'un mur à l'autre, d'un fauteuil à l'autre. Dans la librairie, une femme cherche un livre à acheter. Elle hésite. Ses doigts frôlent plusieurs fois le même bouquin puis s'en éloignent. Réparer les vivants, Maïlis de Kerangal. J'observe la scène de loin. On annonce mon train. Sur les rails, les wagons défilent. Je rejoins la place numérotée sur mon billet et m'installe tout contre la fenêtre. La pluie glisse sur les vitres. Et bientôt, la ville disparaît, s'engouffre dans la campagne. Je refais le chemin, géographique et émotionnel, à l'envers. Je tresse les perceptions, les pressentiments. J'essaye de comprendre cette sensation dans la poitrine. Ce je ne sais quoi qui semble déjà dans l'air. La tête est lourde. Je finis par m'endormir.
C'est une dangereuse expédition à laquelle nous allons participer. Nous nous lançons à la poursuite d'un monstre mystérieux qui s'attaque aux navires et les coule parfois, puis disparaît sans que l'on puisse savoir à quelle espèce il appartient. On sait seulement qu'il est immense, doué d'une force terrifiante, capable de transpercer de son éperon les coques les plus solides et de s'enfuir en distançant les bateaux les plus rapides.
On l'appelle Lingbark, Zaratan, Apsu, Tiamat, Jormungand, Behemoth, Poulpe, Rorqual, Léviathan, Licorne des mers, Pieuvre, Calmar géant ou colossal, Afkoufa, Kraken, Architeuptis Dux. On dit qu'il ressemble à un crabe, à un arbre à l'envers, que ces dix tentacules sont aussi gros que les mâts des vaisseaux, qu'ils pourraient ensevelir le plus grand navire de guerre, que ces yeux, immenses et ronds, transpirent l'intelligence, qu'ils laissent des traces au dos des baleines, aux estomacs des cachalots, que ceux qui l'ont vu ne sont plus là pour le dire, qu'ils jouent de mirage et troublent les eaux, car personne mieux que lui ne saurait disparaître dans un nuage d'encre noire. Un brouillard de suie.
Quand je me réveille, le soleil brille. Je suis la dernière à arriver à La Roche-sur-Yon. Tom, Olivier, Chichi, Léopold, Laure, Victoria.
Voilà, on est bon.
Toute l'équipe du Kraken est déjà là.
Mais est-ce qu'on va avoir des moments où on est à l'arrêt, en fait?
Alors, je pense oui.
Plaisir intense des retrouvailles.
Ah bah, attends, mais dès qu'on est à l'arrêt, bam, on attaque.
Ce mois de décembre 2016, nous alternons les déambulations, montage, démontage, soirée Uno, vin chaud, débat pseudo-philosophique sur l'utilité du collant thermolactyle par moins 8 ou l'accord des instruments en milieu climatique hostile.
Quoi?
On finit d'extraire. Mmh. On rattrape la machine déjà partie en faute de nom. Ah oui, oui, il y a quelqu'un qui répond. Ah oui, dans la foule.
L'ambiance est au beau fixe. On repousse les limites des corps artistiques, des corps collectifs.
Non, je pense pas.
Les limites de la promiscuité, collés les uns contre les autres à l'arrière du camion, dans des loges ou des chambres d'hôtel.
Mais du coup, dès que la machine s'arrête, toi tu fais OK, OK, OK. Et nous,
c'est ça la fulgurance.
On fait les trois étapes, mais. Et on part, bam. Et là, on fait un extrait, bam.
Dans les rues de La Roche-sur-Yon, le Kraken, en sommeil, ouvre son gros œil rond et le referme, la paupière lourde, encombrée de désirs. Peut-être qu'il attend son tour de chauffe, de piste. Sur la place, un peu plus loin, de drôles de silhouettes se détachent dans la brume. Des créatures de loutre, un héron mécanique, laissé là, quelques années auparavant, par la machine. Les bestioles compulsent, répètent inlassablement les mêmes gestes. Là, une plongée, là, un son. Parmi elles, le kraken végète, immobile. À son bord, un marin épuisé, endormi de grippe ou d'alcool, peut-être juste de fatigue. Trombone à la main, attends.
Donc l'idée, c'est
d'entendre juste
le quart, c'est ça?
Voilà. L'idée, c'est...
Narcose. Démêler le sommeil. Sous le brouillard, par couches successives, rembobiner la pelote. Ramasser le souvenir. Recomposer le temps, le son. Nous garons le camion et la remorque. Ellipse. Nouvelle ville. Nouveau visage. Nous voilà installés face à la mer. Seul devant l'océan, je me prends à rêver de notre kraken s'animant pour en cachette rejoindre son habitat naturel. Dans les loges, c'est à qui exhibera son plus beau thermolactyle. Soirée froide, mais douce. Déambulation familiale et joyeuse. Rassembler les brouillards. Les vapeurs de vin chaud remontent aux souvenirs. Embue les lunettes, noue les gorges. Brouillage de rire au loin, disparu avec le reste, dans le tourbillon de la mémoire.
Brouillard, nom masculin, ancien français brouillasse de brouiller. Trouble qui affecte la vue, confusion dans la prise de conscience ou le souvenir.
Décembre 2016, 9h. Au-dessus de l'océan, le soleil levant fait un trou dans la brume. Sous la photo, mon compte Instagram affiche « Réveil au sable d'Olonne, Kraken Style ». Le ciel est clair, dégagé, la brume fine, circonscrite à un fil gris qui découpe le paysage, encadre la tranquillité des flots. La brume contient nos réveils. Emmitouflés, nous marchons lentement vers le camion, contenu dans la plume de nos anoraks, contenu dans le molleton du groupe, dans la douceur lointaine de cette brumaille légère qui semble donner au jour une limite, une frontière poreuse, rassurante et sereine. Autour de nous, le cliquetis lancinant des affiches du vent des globes placardées partout et qui se décollent, micro-rafale après micro-rafale. Nous sommes le 20 décembre. Le départ a été donné ici le 6 novembre dernier. Les voiliers ont pris la mer. Comme il y a longtemps, leurs aînés frondèrent les vagues, à la recherche de pêches incroyables ou de monstres insensés, capables de nourrir les histoires des longues soirées d'hiver. À notre tour ce matin-là, nous prenons la route. Nous quittons les sables d'Olonne, où nous avons joué la veille, pour rejoindre Cholet. Chichi est au volant, Laure et Tom assis à côté de lui. Sur la banquette arrière, Olivier a déjà sorti ses mots fléchés. Léo recommençait sa nuit. Cependant que Victoria et moi-même relayons les photos récentes de la tournée sur les réseaux sociaux.
Brouillard, nom masculin. Nuages stratifiés, stratus, reposant sur la surface du sol, presque toujours par temps calme, formé de gouttelettes d'eau liquide pleine. Il y a brouillard quand la visibilité est inférieure à 1 km, brume au-delà.
À 9h25, à la hauteur de Sainte-Flève-les-Loups, sur la voie rapide reliant les sables d'Olonne à la Roche-sur-Yon, Une épaisse nappe blanche avale subitement le camion et la remorque. Premier impact, léger. Dans la brume opaque, quelques silhouettes se détachent péniblement. Chichi descend, Laure hurle, et puis c'est le trou noir. Les corps volent dans l'habitacle. Le verre se brise. Tout semble venir d'un ailleurs cotonneux et ralenti. Désespérément, l'oreille tend l'oreille, extirpe le son du son, anéantissant certaines fréquences, elle focalise sur l'essentiel. Où sont les autres ?
Je me rappelle avoir levé la tête au moment où Chichi a freiné un peu brutalement. J'étais en train de regarder une photo ou une vidéo de marmotte sur mon téléphone. J'ai levé la tête et j'ai vu le brouillard avec rien et juste une voiture qui sort du brouillard, un mètre cinquante devant nous, quoi, avant qu'on ait le temps de freiner.
J'ai le souvenir qu'il y avait du brouillard, mais il y avait ce côté presque agréable, parce qu'il y avait encore cette lumière de la mer. Le matin, de tous les possibles, en fait, avec la lumière du soleil, et certes du brouillard, mais vraiment une certaine fraîcheur, quoi. Et en fait, ce matin-là, j'ai plus une vision de lumière que de brouillard.
J'étais à l'arrière, on était quatre à l'arrière, il y avait toi, Sigrid, à ma gauche, ensuite moi, Victoria, et Olivier à droite. Et devant, il y avait Chichi qui conduisait, Tom et Laure.
On arrive dans une purée de pois cassés où on voit pas à 5-6 mètres. Ça m'a rappelé le brouillard de montagne quand on voit plus du tout même ses skis, quoi. On voit ni le sol, ni le ciel, ni l'environnement. On voit juste du blanc. On est dans une sorte de nuage, une abstraction en fait de tout le reste. On était vraiment dans cette bulle-là, quoi.
C'est arrivé, mais vraiment d'un coup. Et en fait, tout s'est enchaîné parce que on s'est dit oulala, on voit plus rien. Chichi a commencé à freiner et après là c'était parti quoi, là c'était le carambolage qui commençait. J'ai la vision en fait de la voiture rouge qui apparaît quoi, d'un coup ça tape.
Je me rappelle du coup avoir relevé la tête au moment où Chichi commence à freiner, avoir vu la voiture surgir devant le camion, comme sortie vraiment de nulle part. On roulait très peu vite et on l'a heurté, elle a un petit peu avancé, on s'est arrêté. Les gens de la voiture de devant sont sortis, Chichi est sorti pour leur parler. On a commencé à tous un peu paniquer dans le camion. Toi en premier, t'étais juste à ma gauche. Moi je me suis détaché, parce qu'on s'est dit « Ah, il faudrait qu'on sorte comme Chichi ».
Là je pense au spectacle. Merde, la tournée s'arrête en fait. Ah ok, là on repart pas. Alors que j'étais dans la projection, dans le camion, dans la projection de ce qui allait se passer dans la prochaine date, tu vois. Assez vite, on est transporté, on est percuté, on est jeté par le camion qui arrive et qui embarque tout. Comme la main d'un géant, en fait, qui te prend et qui, toi, t'es juste une petite variable, et il te secoue et il te met là où il veut, en fait, et tu peux rien faire, en fait.
Je crois que c'est Olivier qui a dit « mais en fait, ça va retaper ». Et à partir de là, j'ai l'impression que dans mon corps, il y avait comme l'appréhension du choc qui allait venir de l'arrière. Et ça a fait des... comme si je sentais le choc se rapprocher. Et que mon corps se disait, non, ça va être plus violent que ça, en fait. Ça va être plus violent que ça. Et qu'à chaque fois, c'était de plus en plus fort jusqu'au vrai, qui a fait à peu près exactement le même bruit que ce que j'imaginais qui allait arriver. Et du coup, j'ai surgi de mon siège. Et je me rappelle d'un petit moment en apesanteur, comme ça. J'ai l'impression de tourner sur moi-même, très lentement. Et d'entendre le bruit du verre qui éclate, d'entendre le cri de tout le monde. Et je tourne, j'ai l'impression que ça dure assez longtemps. Et là, je retombe sur le dos. Tout le truc de ralenti se condense à ce moment-là dans un temps qui est redevenu présent.
C'est trajet vers la mort. J'ai le temps de me dire, ah, c'est maintenant, en fait. Ah, mais là, je vais mourir. Quelqu'un dit de sortir. Je sors. Le mort qui finit de mourir. Ça, c'est quand même hyper spécial, quoi. Le mort qui finit de mourir, je le vois vraiment faire un geste. Et la femme à côté qui parle, qui geint, mais de façon... tout est sourd, en fait. Elle peut pas geindre fort. Moi, je peux pas parler fort. C'est comme si les bruits, ça appartient aux... C'est les bruits de l'accident, en fait. Et nous, face à ça, on peut pas faire des bruits très forts, en fait. Il y a un silence, en fait. Je lui parle même pas, à la femme. Et je fais, je traverse la route, j'entends des clashs, je vois des rétros voler en fait. Et puis on passe de l'autre côté. Et il y en a qui prennent des initiatives, pas moi, mais je suis le mouvement.
Une image, la poignée de la porte qui était à côté de moi, une phrase dans ma tête, il faut que tu t'ouvres maintenant. La porte qui s'ouvre et la sortie du véhicule, tout le monde qui sort avec « allez, on y va, on sort, en se motivant, on va se mettre à l'abri » et après, l'extérieur. Donc là, on sort de ce rythme-là, on sort d'un enchaînement de choses avec une durée complètement faussée. J'ai pas du tout de souvenir linéaire de ce moment-là. Et après, je recolle à une linéarité où je vois un monsieur sous notre camion dans une flaque de sang qui grossit.
Et il y a une femme qui appelle à l'aide beaucoup. Et j'essaie de lui parler pendant un petit moment, mais le brouillard est toujours hyper dense autour. Je vois le camion qui nous est rentré dedans, mais je vois quasiment pas le Kraken. Les pires sensations, en fait, je pense que c'est après, c'est à partir de ce moment-là. À partir, je pense, du moment où je descends et où je vois la femme et l'homme sous la roue arrière droite du camion. En fait, là, tout devient un film d'horreur ou un cauchemar où, en fait, les gens hurlent. Des voitures arrivent à toute vitesse. Des gens hurlent pour essayer de les arrêter, mais évidemment, sont absolument inaudibles. Et la voiture finit par se fracasser dans un bruit d'explosion de métal et de verre. J'ai l'impression d'entendre des explosions les unes après les autres et des gens qui crient, qui hurlent d'un côté à l'autre de la route. Vraiment une suite de hurlements et d'explosions. Je me rappelle m'être fait la réflexion de me dire qu'en fait, on était en France, en Vendée, sur une route au bord de la mer, alors que des gens vivent des hurlements et des explosions à un endroit où en fait ça va pas s'arrêter. Alors que là, évidemment que ça va s'arrêter bientôt. Mais c'est ce moment-là, ouais, qui peut-être dure 10 minutes ou un quart d'heure, mais que j'ai l'impression dure une éternité. Et je suis scotché au bord de la route sans. Et quand j'essaie de m'en éloigner, j'entends toujours les hurlements et les explosions sans arriver à me détacher de ça.
Dans la bouillie du souvenir, sans doute le froid est la première morsure, la plus vaillante, celle qui empêche de tomber ou de tourner de l'œil. Le froid, c'est la gifle du réel, la sensation paradoxale des aiguilles sous la peau, mêlée à la certitude d'être en vie, quand la glace au dehors bataille avec le feu au dedans et qu'à la jonction des forces persistent ces picotements significatifs. C'est cette douleur membrane, le froid, qui rappelle qu'on est là encore, qu'on a traversé le miroir, dépassé la vie, qu'on a survécu. Alors on se tait. On arrête de bouger pour que le froid envahisse. Parce que de l'autre côté du froid, c'est le carnage du présent, l'enfer de la seconde de trop, avant laquelle une main aurait pu retenir, une parole empêchée, si on avait su, si on avait pensé, si quelqu'un avait dit « si, si, si ». Quelle importance maintenant ? Un peu plus loin, dans les méandres de la mémoire, il y a ce bord de route, et puis le brouillard froid, en coton informe, épais. Il y a l'allongement des secondes, les corps fougères et algues qui balancent à la cabine, tous ces gestes à l'aveugle, les à-coups, les changements de trajectoire, le grillage et les arbres escaladés à toute vitesse, les rails désertes, puis la rapidité d'un train, les bruits de crash. L'image du bruit des crashs quand le son s'en est allé. Il y a cette louve qui se retourne au loin dans la plaine et me regarde droit dans les yeux avant de disparaître.
Et là, une fois qu'on est sur la pelouse, Bah, déjà, on est vivant. Des crashs, en fait. Ah oui, on est sur la pelouse, et là, des crashs qui continuent, mais hyper lourds et distincts, hyper distincts, quoi. C'est l'un après l'autre, quoi. C'est vraiment... Et ça prend le temps, et ça dure hyper longtemps, que toutes les bagnoles s'entassent les unes dans les autres.
Et là, tu vois quelque chose ou pas, à ce moment-là? Tu vois quoi?
Bah, je vois nous... Je sens les pompes mouillées dans la rosée, en fait. D'autres gens, mais le brouillard pas dissipé, en fait. On voyait pas grand-chose de la route en elle-même. Bah, je vois toi qui escalade, qui fait vraiment, qui est dans un état second. Et en fait, je suis comme au ralenti, en fait. Je peux pas m'exprimer, je peux pas... Je suis là et je subis. J'ai l'impression que c'est l'accident qui décide, quoi. Et nous, on est là et on fait ce qu'on peut.
J'étais avant ça... Déjà très en colère contre les voitures, les trucs motorisés de manière générale. À part en tournée, je refusais globalement, catégoriquement de monter dans une voiture parce que ça pollue. Ça s'est vraiment exacerbé après coup. Je me suis dit, bah voilà, j'avais raison depuis le début. C'est très mauvais, tout ce qui roule à ce genre de vitesse, ça n'a absolument aucun sens. Ça m'avait donné un argument de plus pour dire que vraiment, les voitures c'était mauvais et qu'il fallait les éradiquer de la planète le plus vite possible. Mais c'était beaucoup plus pour des raisons de pollution, et là, c'est sûr, le fait que ça tue en plus des gens de manière complètement arbitraire, hasardeuse et stupide, ça s'ajoutait à ça.
Ivry-sur-Seine, 2 mai 2019. Dans la bouillie du souvenir, il y a l'épreuve d'une nouvelle balance. La prise de conscience d'un autre brouillard, de responsabilité cette fois, qui implique d'assumer son propre poids sur le monde, et la longue chaîne des désirs, des besoins, des réseaux, la convergence des trajectoires ou le suivi docile de nos obligations, volontés, croyances, actes manqués, ayant abouti là, à cette seconde-là, dans ce brouillard-là. Sous les tempes, les idées ricochent, le temps dilate et convulse, fiche tout par terre. Il faut descendre. Maintenant. Courir. Vers où ? Ne pas regarder.
Rome, 4 mai 2019. Sigrid, je voudrais ne pas parler. J'écoute ta voix, et il y a seulement cette envie de me taire, de laisser tes mots résonner, de faire place au silence. Je crois que les vrais amis peuvent s'éviter les mots de circonstance. Lorsque tu m'as raconté ton accident la première fois, il y avait des silences. Je n'ai pas vécu ce carambolage, mais je sais que certaines expériences peuvent couper la parole. Alors les gestes prennent la relève. Des réflexes très anciens inscrits en nous, de ceux qui sauvent. Comme ta fuite, ta survie.
Quand le brouillard est parti, j'ai vu l'ampleur. C'est aussi une image vraiment de re-regarder cette scène et de voir l'ampleur de la scène et de voir l'état du Kraken, l'état de la machine. Un tas de ferrailles avec des bouts de machine et des bouts de tout ce qu'il y avait dans les voitures sur le bitume, un peu éparpillé partout. Enfin, des bouts de vie, en fait, un peu des objets de vie un peu partout sur la quatre voies. Et le Kraken. Je le découvre à ce moment-là.
Quand on est remonté sur la route, quand les pompiers sont arrivés, et quand les pompiers et les flics sont arrivés, c'est à ce moment-là que j'ai vu la machine. Je me suis dit, et je pense qu'on s'est tous dit ça, c'est heureusement qu'elle était là, en fait. Clairement, notre machine nous a sauvé la vie, parce qu'elle était tellement en bouillie, il n'y avait plus rien.
Brouillard sur la plaine, sur la forêt. Brouillard, en mur blanc posé sur le monde, imbroglio complexe, d'embrun ou de brume. Dans le capharnaüm de l'instant, au loin, quelques voix tentent de parvenir, à nos pieds d'autres s'éteignent. le songe est disloqué. Les échos ratent leur correspondance. Quelqu'un a dû baisser le son de la télé. Sur l'écran, neige, visage brouillé, il y a d'autres images, d'autres sons, de ceux dont on décide qui penser suffit à rendre hommage, de ceux que l'on évoque sans les raconter. Les mouvements brèves figent comme dans du coton. Couché sur le flanc, le kraken agonise. Un monstre de 38 tonnes flanqué dans la poitrine. Qu'est-ce qu'il fout ? Pourquoi ne disparaît-il pas dans l'encre, la brume, dans le brouillard du mythe, sous le cuir ou la peau ? Ces trois gros cœurs saignent. Un sang lourd et rouge, atomisé de gris.
Non, 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 mon ami. C'est un calmar et de belle taille. Ses tentacules mesurent au moins 6 mètres.
L'épouvantable bête. Et ce bec formidable. C'est pas une pieuvre ordinaire, on dirait un gigantesque perroquet. Que j'aimerais le harponner.
Votre désir va être exaucé, maître Land. Cette bête est malfaisante et peut compromettre la stabilité du Nautilus en s'y cramponnant par ses ventouses. Nous allons donc faire surface et la combattre corps à corps. Ouvrez les panneaux.
Attention, capitaine! Attention,
capitaine,
la pieuvre!
Le kraken, ce poulpe, il a quand même des très gros yeux. Et quand on le regarde, j'ai l'impression qu'on voit quelqu'un qui a soit des bonnes raisons d'engloutir des navires, soit pas trop de raisons et dans une errance. Et je me dis que ce kraken-là, nous ayant trouvé à protéger envers et contre tout, a trouvé une sorte de raison d'exister infiniment plus profonde que son errance au fond des mers, où bon, il remonte, il coule un navire. C'est le plus gros, en fait, donc il a pas trop d'idées de quoi faire, tout ça. Là, il était avec nous, on l'a chéri, absolument. On l'a monté et démonté des dizaines de fois, en prenant soin de rien abîmer, de toujours faire en sorte qu'il soit le plus beau possible pour montrer aux gens, pas comme quelque chose de terrifiant, mais comme quelque chose de pacifique et de même vecteur de beaucoup de bonheur pour nous et dans notre espoir pour les gens. Et qu'en échange de ça, d'une certaine manière, il nous est trouvé à protéger. Je pense que c'est pas du tout absurde.
Carambolage, substantif, masculin. Au jeu de billard. Coup qui consiste à toucher successivement deux billes. La rouge et celle de l'adversaire, avec la sienne. Marquez les carambolages. Synonyme, coup double, ricochet. Usage familier. Série de chocs, de heurts, de personnes ou de choses entre elles. Usage métaphorique. Entre choc de pensée, émotion et idée, percée ou ressac vrac de poème, signalétique imaginaire, secousse intime en chaîne, entraînant une perte de repère global.
Carambolage, c'est presque ironique en fait, parce que c'est... nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une sorte de... C'est vraiment, ça fait quincaillerie en fait. C'est pas du tout le kraken, c'est pas du tout un truc d'ingénierie monté d'une pièce par des ingénieurs en Allemagne dans des usines Bosch avec un truc facile à l'emploi quoi. Le kraken, c'est, si tu connais pas, c'est impossible. Tu vas te couper, tu peux même pas visser un truc. C'est que des pièces détachées. Ça sort de l'imaginaire de Chichi. C'est du coup. Carambolage, c'est presque tout un morceau de musique, en fait. C'est t'as tout un morceau de batterie là-dedans. C'est carambolage. Tu vois, c'est la fin du kraken, quoi. C'est-à-dire carambolage, tout le monde se rentre dedans, les tôles se froissent, les gens meurent, et puis le kraken meurt, en fait. Et il exhale une petite musique pour finir, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Je le regarde sur la remorque, le truc est complètement enfoncé, ça ressemble même plus à un kraken. Et là, on peut imaginer carambolage, quoi. Une petite musique de carambolage qui... Toutes les dernières petites musiques du kraken qui finissent de sortir, quoi. C'est cette montagne de casseroles qui finit dans une montagne de casseroles encore plus grande, en fait. C'est bizarre parce que c'est à la fois un assemblage de bois, de métal, de toile, de qu'est-ce qu'il y a encore dans le kraken. Il y a tellement de choses, quoi. De pneus, de
cuir.
De cuir, tout à fait. De l'inox. Et tout ça, c'est ironique. Ça finit dans une énorme orgie de tôle froissée, en fait. Et voilà, c'est la fin. Donc carambolage, ouais, ce serait comme une énorme, un peu un morceau de batterie, free jazz, tu vois. Une dernière colère, le solo monte et puis une dernière colère et en fait le mec il trouve ses peaux, quoi, et puis ça s'arrête. Cet accident, il a eu lieu en 2016, en décembre 2016. Avant, pendant l'été, je crois qu'il y avait eu les attentats à Nice. L'hiver d'avant, l'automne d'avant, il y avait eu le Bataclan. Et encore avant, il y avait eu les attentats de Charlie Hebdo. Et du coup, en fait, pour moi, cet accident, il est étroitement lié aux attentats. Pour parler de l'accident, je parlais d'attentats. Ça a bouleversé ma vie, en fait. Ça a complètement changé mon rapport à la mort. Et du coup, à la vie. Je me dis, d'abord, dans un premier temps, cet accident doit avoir un sens. Je dois pouvoir l'expliquer. Bon, là, je me suis heurté à un échec. Et dans un deuxième temps, puisque je peux pas expliquer cet accident, alors ma vie qui reste... doit avoir un sens.
L'expérience vécue physiquement du carambolage a créé chez moi une urgence dans l'urgence. Expérience d'accident, en même temps qu'expérience climatique. La nature contre le progrès, en forme de bleu sur le corps. Expérience de limite aussi, ou révélation d'une urgence impériale à ralentir le temps, le battement cardiaque, la vitesse sur le compteur kilométrique, pour accepter de voir et dire ensuite. L'instantané de cette conscientisation politique, sociétale, environnementale, du type de celle qui sourd en nous depuis toujours, transpire dans les poèmes, déborde où elle peut, jusqu'à ce qu'on la prenne en coup de poing dans le ventre, un matin de décembre. Alors, de pressentiment, on passe à certitude. Et on raccroche en une fraction de seconde tous les wagons. Des intuitions de l'enfant aux tristesses de l'adulte, en passant par les questions existentielles de l'adolescent qui exige de comprendre et qui cherche en système, en action, en pensée. Tire les sonnettes d'alarme, toutes les sonnettes d'alarme, écrit dans du coton, car personne n'écoute.
Avec la surpêche ou le réchauffement des océans. Le 12 janvier 2017, trois semaines après le carambolage, j'assiste par hasard à la projection de Réponse au brouillard, le film d'Olivier Strauss et de mon ami François Hébert. Réponse au brouillard, c'est le portrait d'un adolescent et le portrait d'une génération en prise avec une urgence de fin de siècle, de fin de monde. Par le prisme de Théophane, un jeune garçon de 20 ans, le film crée un lien entre la venue d'un étrange brouillard et l'état sociétal de la France en 2016. En octobre 2018, François Hébert est admis en tant que pensionnaire à la Villa Médicis afin de poursuivre son travail de recherche autour de la notion d'effondrement. L'expérience du carambolage a créé un pont entre nos deux brouillards. Constatant les parallèles nombreux existants entre les récits des effondrements intimes et ceux des effondrements systémiques, quelques mois après l'arrivée de François à Rome, nous décidons d'entamer une correspondance autour de son sujet de recherche et de mon accident.
Rome, 15 mai 2019. Effondrement partout. Cet hiver, carambolage entre la vie et mon sujet d'étude. Lentement, en silence, je rassemble les débris. Je les regarde, hébété. Je fais face à du sens en morceaux. Trop tard pour les sonnettes d'alarme, alors j'abandonne la voiture et je prends des tramways qui datent des années 30. Je relis Benjamin et Warburg, les penseurs sismographes. Le cours de l'expérience, la barbarie et le sens de l'histoire. Je comprends peu à peu que notre savoir est borgne. J'avoue mon impuissance, je crois que ça me fait du bien. Je me vois tout petit dans un parc d'attractions où les manèges s'effondrent. J'observe les sarcophages, les visages des couples patriciens effacés par le temps. Je vois la Rome antique en ruine au coucher de soleil. Dans ma tête, il y a l'Arc de Triomphe, l'avenue Kléber et les voitures qui brûlent. Je comprends la violence, me refuse à juger l'expression des affects. Enchevêtrement des temporalités, coexistence des échelles, début de soulagement. Je change les aiguillages, me rends dans les musées. Annonciation, peintre du Trecento, polyptyque sur fond d'or. Stop. Dessiner à partir des cassures. Penser la relation à soi, à l'autre et à l'environnement. Je retrouve le mouvement et ça me réconforte. Celui des plantes, des draperies. Je marche plus lentement. Je respire. Je prends le temps. Ici. Maintenant. Peu à peu, je tends l'oreille. J'essaie de saisir la mélodie des choses. J'arrive à relier les images.
Je dis pas qu'une tempête engloutira tout. Mais je crois que la météo, elle deviendra folle. Qu'elle en aura marre qu'on annonce son programme à la télévision chaque soir. Nuages, des vents, des orages toujours plus violents. Peut-être même des grêlons gros comme mon poing. Voilà ce qu'on aura tous les jours. Et personne ne pourra plus le prévoir à l'avance. On sera nus comme la préhistoire. Et on aura l'air malin.
Ivry-sur-Seine, 21 mai 2019. Après l'accident, j'avais besoin de tout réunir comme ça. Comme toi, désormais, tu relis les images. Il s'agissait de rassembler, faire des tas, vérifier, recommencer, encore et encore, petit tas après petit tas. Les objets catalysent, ils contiennent, comptent les points. Les vêtements, écharpes, valises, bonnets, les doudous, portables, louves imaginaires, ça évite de regarder ce qui n'est plus là. Ce qui sous nos yeux a déjà disparu. L'innommable de la vie qui dévisse à 3 jours de Noël. On se met à rêver d'évaporation, d'un possible évanouissement de la matière, d'une forme de légèreté existentielle ou d'une absence totale d'emprise, d'impact, de soi sur le reste du monde. D'un mur mou qui ne renverrait pas les balles que l'on jette dans ces moments de désespoir. On se prend à rêver d'un monde déchargé de son propre poids. Mais déjà sous la peau, la vie bat et hurle qu'on la vive.
Rome, 28 mai 2019. Depuis mon arrivée à la Villa Médicis, mon travail s'est peu à peu réorienté autour de la notion de thérapeutique. Une thérapeutique par les images. C'est comme un vœu pieux, un but sûrement trop grand pour moi. Mais je crois que ces situations où tout bascule, ces moments où les cadres explosent, ont beaucoup à nous apprendre. Alors j'essaie de construire le film sur lequel je travaille comme un montage des attractions, un lieu où faire discuter les images au-delà des cassures. Je m'aperçois peu à peu que l'effondrement n'est pas un sujet, mais plutôt un lent processus remettant en question mon rapport à l'histoire.
Le signe vient toujours du ciel, de cet indiscernable qui bouge entre les lignes. Un jour, la nature se taira pour de bon. On oubliera le son claqué d'un battement d'ailes. On oubliera les voix et les visages qu'on rengaine par-dessus. On les cherchera dans le doute de nous-mêmes.
Ivry-sur-Seine, 5 juin 2019. François. Enfant, j'ai observé disparaître les oiseaux, les insectes, les couleurs des champs. J'ai entendu la campagne se taire. J'ai entendu le silence comme un trou dans la vie. Et j'ai compris ce qu'était l'effondrement avant même de savoir le nommer encore. Alors depuis, je multiplie les cauchemars de fin du monde. Je cours dans mes rêves pour chercher des abris. Et je me réfugie toujours dans cette maison-là, au cœur de cette campagne-là, qui n'a même pas de cadenas. Le refuge est émotionnel. Il est un retour à la terre, au giron, au désir de se fondre dans. L'effondrement intime dans lequel m'a placé cet accident m'a obligé à me reconfronter à l'enfant que j'étais et m'a ramené à un effondrement plus grand, à la finitude du système Terre, aux limites du concept d'accélération, de possession, à l'impossibilité de la croissance perpétuelle. En une fraction de seconde, dans ma tête, les architectures émotionnelles se sont alignées pour résoudre un problème mathématique existentiel. J'ai validé mes terreurs et mes intuitions d'enfant, à cet instant-là où j'ai compris que je survivais au vacarme autour de moi, que j'avais dépassé le mur. Alors je me suis arrêtée, et j'ai regardé tous les effondrements se combiner en un seul. Je crois que c'est de cette position de fille passée de l'autre côté de ce qui tombe que j'avais envie cette fois de parler. J'avais envie de dire « Attention, pardon, ralentissez, stop et soyez heureux » en même temps. Envie de dire « Malgré tout, sachons reconvoquer la joie. »
Souvent, je me dis qu'on est trop bête. On se réveille avec la peur au ventre. On se dit que le monde est dur et on s'y habitue. Parfois, je me dis qu'il en faut du courage pour ne pas s'habituer, pour ne pas avoir peur. Le futur, c'est maintenant. Le futur, ce sera bien.
Aujourd'hui, j'ai une confiance puissante en l'avenir, malgré tout. Parce que de plus en plus, je crois que c'est une piste de vie, la joie. Un choix, comme la lenteur, comme la douceur. Un chemin à emprunter, et advienne que pourra.
Je te rejoins quand tu parles de confiance en l'avenir, malgré tout. Il y a beaucoup à dire, à inventer. Ne pas attendre que le monde nous réconforte, mais créer des images qui fassent écho, qui permettent à toutes ces intuitions devenues sentiments d'exister. Pour malaxer nos cris, les faire devenir tendres.
J'irai chercher Judy Kael. On partira sur les routes en direction de la mer. On croisera plein d'autres gens. On se cachera dans les bois. C'est peut-être comme ça que je la rencontrerai, ma femme du futur. Alors on s'en foutra que tout soit bousillé. De la chute des buildings, et des cris, et du sang. Et on se tiendra la main. Et on vivra heureux. C'est possible aussi.
Depuis 2 semaines, Réponse au brouillard est présentée au sein de l'exposition Le vent se lève, réunissant les œuvres des pensionnaires présents à la villa cette année. Au départ de ce film, il y avait l'envie de donner corps à l'air du temps. Un printemps morose, pluvieux, où l'état d'urgence venait s'opposer aux manifestations contre la loi travail, venait interdire la marche sur le climat et où, avec Olivier Strauss, on faisait le constat d'une France coupée en deux. Dans Réponse au brouillard, il y a ces images d'un monde déserté, les paysages sans espoir, ce couple qui marche à travers le brouillard, la terre devenue surface lunaire. Mais il y a aussi cette masse d'eau qui avance, ce phénomène beaucoup plus grand que nous, qu'on regarde en silence et qui lave nos regards. Comme un changement d'échelle, une irruption du non-humain dans la dramaturgie. Pas de mots, juste le brouillard qui devient un personnage.
Tu fais, t'es sur
là, t'étais sur la mineure.
J'étais sur la mineure. La si do do dièse ré.
L'hiver qui a suivi le carambolage, dans le secret des ateliers du système Paprika, pièce après pièce, Chichi a reconstruit le Kraken. Début mai 2017, dès l'ouverture de la saison, il était prêt de nouveau à sillonner les routes de France et de Navarre.
Une approche diatonique ou une approche chromatique ?
Oui, c'est ça en fait, c'est là où je te perds en général. Je me dis.
Et arrêtez de faire des fausses notes.
C'était Carambolage avec Laure Caillet, Carole Deltanre, Tom Duchamp, Audrey Grasse, Olivier Mété-Cartier, Léopold Pélagie et Léna Viricelle. Merci à Romain Baudard, François Hébert, la mairie d'Audin-le-Tiche, Chichi et toute l'équipe du système Paprika. Lecture, Lara Brulle et Laurent Montel. Extrait du film Réponse au brouillard de François Hébert et Olivier Strauss. Création sonore, Lucas Lelièvre. Prise de son, Florent Layani, Pierrick Charles et Philippe Mercher. Mixage, Claude Niort. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron. Carambolage, une expérience de Sigrid Carré-Lecoindre, réalisée par Assia Khalid.
Ce jeudi, ne manquez pas dans le fil de l'expérience, le podcast en 3 épisodes, Les passagers du Bosphore en son immersif à Istanbul, voyage à bord d'un vapeur d'une rive à l'autre. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.